Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
Bonjour FM. À toutes et à tous. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Muselec, président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Cabreton et Segor. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien.
Bienvenue à ce micro. On va entre guillemets découvrir ce que vous faites, parce qu'en fait on vous croise des fois, où on entend parler de vous un peu, où il y a des coups d'éclat des fois, et vous sauvez des vies aussi, voilà, donc c'est pas mal quand même. Mais on sait peut-être pas assez sur vous, et on va essayer de remédier à ça aujourd'hui. Et alors, avant de parler de la SNSM, qu'est-ce que c'est à l'échelle nationale et locale, on aimerait bien avoir une petite idée de votre trajectoire personnelle qui vous a amené au poste que vous occupez actuellement, président.
Alors bonjour, donc, je suis né en Bretagne, je suis d'origine bretonne. J'ai vécu mes plus jeunes années en Bretagne et mon travail m'a fait me déplacer dans différentes régions. J'ai connu la SNSM très tôt parce que en habitant et pratiquant la voile, on est vite en lien avec la SNSM, on voit les bateaux partir, on s'intéresse un petit peu. Donc je suis rentré à la SNSM à l'âge de 18 ans. Pour surveiller les plages. Donc j'ai fait 12 années de surveillance de plages dans différentes régions de Bretagne, Méditerranée, Atlantique. Mmh. J'ai passé ici un petit moment au Pays Basque d'ailleurs. Mmh. Et je suis rentré ensuite sur l'île, raison professionnelle toujours, où j'ai repris un centre de formation. Mmh. J'ai été formateur dans un centre de formation de l'île. Et le travail où j'en suis, je suis redescendu dans les Landes. Je venais déjà en vacances. Mmh. Et on s'est dit que c'était sympa d'habiter ici, donc ah oui. On s'y est installé.
Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de nombreuses fois à ce micro, vous savez.
Et donc, j'ai rejoint la SNSM, ouais. La partie sauveteur embarqué ici, mmh. sur un bateau à Cap-Breton, ouais, depuis ouais. maintenant 11 ans.
Mmh. D'accord, très bien. Bienvenue.
Merci.
Ça fait un moment que vous êtes là. Alors, donc, oui, alors la SNSM, donc, c'est... Qu'est-ce donc ? Parce que c'est quand même c'est une association, déjà il faut le dire, même si quand on voit l'envergure du dispositif, que ce soit en termes humains ou matériels ou sur le territoire français, c'est un truc énorme, mais ça a quand même le statut d'association.
Alors déjà, c'est le premier amateur de France, on ne le sait pas. Donc c'est un amateur, c'est quelqu'un qui est propriétaire de bateaux et qui utilise des bateaux. Mmh. On est le plus gros amateur de France, donc on a le plus grand nombre de bateaux pour une entité.
Oui.
C'est déjà pour une association, c'est déjà pas mal.
C'est remarquable.
Et donc la SNSM a été créée dans les années, il y a très longtemps, 1800 et quelques. Il y avait deux, en général c'était des patrons pêcheurs ou des pêcheurs qui intervenaient après leur travail pour aider les naufragés qui étaient dans leur secteur.
Oui.
Donc il y avait les hospitaliers sauveteurs bretons et la société centrale, le sauvetage des naufragés. Et les deux associations se sont rassemblées en 1967 pour créer la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Donc ce qui se passait au niveau local, tous les gens faisaient à peu près la même chose, même technique, tout était rassemblé pour créer la SNSM.
D'accord.
Et depuis 1967, les stations se sont donc ouvertes sur tout le littoral de France pour répondre à la demande de sauvetage en mer qui est répartie sur toute la France et les dom-toms.
Ouais, alors c'est marrant parce qu'on aurait pu imaginer que ça aurait été l'État qui aurait... créer une branche, voilà, comme parce que on parlait aux antennes, il y a un parallèle qui semble évident au bout d'un moment quand on étudie un petit peu ce que vous faites, c'est un peu avec les pompiers, vous êtes un petit peu les pompiers de la mer, c'est ce que je me suis dit en regardant les photos, puis il y a un code vestimentaire de sécurité et tout. C'est pourquoi est-ce que l'État n'a pas dit, voilà, on prend ça en charge, c'est à nous, mais il a confié ça plutôt, il a laissé faire une association en fait pour faire ça.
Alors on a une délégation de service public, on est reconnue association agréée 1901, reconnue d'utilité publique, et on assume le sauvetage en mer, donc du littoral jusqu'au large, avec une délégation de l'État.
Voilà.
On est sous les ordres entre guillemets du préfet maritime, donc ici le préfet maritime de l'Atlantique, pour notre partie, et tous les moyens de secours sont déclenchés par les organismes de l'État, donc de la marine nationale, ici le CROSS pour notre zone.
Ouais, donc vous pouvez être réquisitionné, par exemple une alerte, j'allais encore faire le parallèle avec les pompiers, mais la sirène qui sonne, vous n'avez pas de poteau à descendre, mais vous êtes aussi dans ce genre d'astreinte permanente.
Oui, c'est ça, donc on a une application qui est déclenchée par le CROSS, l'organisme qui gère tous les secours en mer et qui reçoit les demandes d'assistance. Et à partir du moment où l'application sonne, tous les gens qui sont mis disponibles à l'instant T viennent à la station. Donc arrive à Cap-Breton au port et l'équipage, donc le patron d'équipage va définir les qualifications qu'il a besoin par rapport aux gens disponibles. Et dès qu'on est au complet, on embarque, on s'équipe et on part en intervention.
D'accord.
Et on a 15 minutes pour intervenir.
Oui, voilà, c'est ça que le temps compte.
Oui, évidemment.
Oui, alors ce patron d'équipage, c'est quelqu'un qui a intérêt à être super au courant des gens qu'il a pour avoir une idée du puzzle qu'il va résoudre pour mettre ce panel de compétences dont il va avoir besoin pour l'opération en cours. Ça demande quand même des compétences et assez rapides en plus.
Voilà, donc on est 16 à la station actuellement avec différentes compétences. Donc on a des sauveteurs embarqués, des équipiers de pont, qu'on appelle ça. Donc c'est la formation de base, l'équivalent du matelot, qui fait un petit peu de tout ce qui est manœuvre sur le pont, etc. Ensuite, on a un barreur, donc quelqu'un qui va piloter le bateau. On a radio-navigateur, donc la personne qui va s'occuper des liaisons radio avec le cross, de rendre compte de ce qui se passe sur place et de transmettre éventuellement, de demander d'autres secours, d'autres moyens si on en a besoin. Et après, on a le patron qui est là pour coordonner l'ensemble de son équipage, qui va décider de l'intervention, de la façon dont on va le faire, et avoir un petit peu un œil sur tout le monde pour que tout se passe bien, en sécurité et dans le meilleur des cas.
Oui, oui. Donc, effectivement, ça nécessite forcément une organisation, j'allais dire une rigueur quasi militaire, en fait.
Quasi.
Oui, et donc, alors, on a des aspects, on parlait de l'association, donc au niveau, en termes de financement, donc, comment est-ce que vous fonctionnez, puisque donc, vous avez l'argent, il vient de essentiellement de dons privés en fait.
Voilà, donc là chaque association, l'association générale est pilotée au niveau financier, au niveau du siège à Paris, et chaque station est indépendante financièrement. Ça veut dire qu'on a des comptes à rendre, évidemment, ils ont un œil sur nos comptes, mais la station doit fonctionner par ses propres moyens. Ça veut dire qu'on travaille essentiellement avec des dons, donc des dons des particuliers, d'entreprises, en général du secteur local, qui viennent compléter notre budget de fonctionnement pour que la station puisse fonctionner sur toute une année. On a aussi des communes qu'on sollicite pour des subventions dans le cadre de nos interventions pour permettre de renouveler le matériel, former les équipages, entretenir et puis participer à nos formations aussi.
Oui, j'imagine, voilà, quand vous avez des fois des frais. On a parlé, donc vous étiez le plus gros armateur de France. Donc on en parlera un petit moment tout à l'heure, mais bon, les bateaux, un bateau, même le plus peu modeste, ça doit coûter déjà une somme remarquable. Donc là, vous devez faire de sacrés appels de fonds, des fois, où je ne sais pas comment ça se passe, c'est fait vachement à l'avance. Comment ça fonctionne quand vous voulez vous équiper un matériel important comme ça?
Alors, en général, c'est anticiper un bateau à une durée de vie de 30 et 35 ans. Donc les bateaux, quand on arrive, on reçoit nous notre bateau, on a reçu 9 en 2013. Donc maintenant, on arrive à ce qu'on appelle une mi-vie. Donc on a une grosse réparation à faire, on va faire de l'entretien. Donc le bateau va remonter bientôt à La Rochelle pour changer tout ce qui est électronique, remettre ça un petit peu à jour, vérifier l'état de la coque, tout ce qui est entretien moteur. Et on a une grosse somme qui va sortir. On aura un bateau de remplacement, parce que ce que les gens vont s'inquiéter, il n'y aura plus le bateau à Cap-Breton.
Oui, c'est ça, embêtant.
Donc on aura toujours un bateau à Cap-Breton. Et ce financement est fait, donc du coup, comme le montant est très important, on est à l'ordre de 150 000 euros après. Il y a une partie de la station qui va financer cette refonte et le reste est financé au niveau national par le siège à Paris. Donc de dons aussi qui viennent de toute la France.
D'accord.
Il y a ce qu'on appelle un compte pool, un compte qui est global pour toute la France. Et après, chaque station a son compte qu'elle doit alimenter officiellement pour son fonctionnement local. Mais pour les grosses interventions, c'est la SNSM, le siège, qui intervient.
D'accord. Et vous êtes accosté où? Vous êtes dans le port de Cap-Breton avec les plaisanciers ou vous avez un endroit particulier?
Donc on est au port de Cap-Breton, à la sortie du port, juste du côté droite, du côté Hossegor, mais c'est toujours sur le port de Cap-Breton. À côté de l'entrée du port, l'avantage c'est qu'on dérange personne quand on s'en va.
Personne ne vous dérange aussi quand vous avez besoin de passer.
Voilà aussi.
Surtout.
Voilà. Donc on est affecté au port de Cap-Breton et on est le plus dur c'est de passer la passe, qui est compliqué. Et on est soumis aussi au marais. Parce que le port de Cap-Breton est un port à marée maintenant, même s'il a été dragué, on est contraint de respecter les endroits où c'est un peu compliqué à sortir.
D'accord. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des pour tous ceux qui se sont promenés le long du port et tout, des fois, il y a des grosses vagues. Des fois, c'est un peu compliqué de sortir ou de rentrer aussi.
Oui, la sortie, quelquefois, est plus facile que le retour. Surtout quand on a quelqu'un qui nous suit de proche, un bateau en remorque.
Et vous parliez aussi des CROSS. Donc, les CROSS, c'est ces organismes, c'est les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Donc, à l'échelle nationale, il y a la SNSM et puis il y a les CROSS, c'est des sous-ensembles SNSM ou c'est des organismes différents avec qui vous travaillez?
Les CROSS sont gérés par la Marine nationale.
D'accord.
Donc, ce sont des marins qui sont qui arme les crosses. Mmh. Il y a 5 crosses en France, réparties un peu partout sur les côtes de France. Mmh. Et les crosses sont là pour en France. Ce sont les bras armés de la préfecture maritime qui sera à Brest ici, mmh. qui surveillent donc toute la côte, tout littoral côtier et qui ont l'autorité pour déclencher les secours, aussi bien SNSM mmh. que tous les moyens maritimes peuvent nous aider, la gendarmerie, les pompiers, moyens militaires et moyens civils.
Oui. Alors, en termes de personnes, de bénévoles, oui, voilà. Alors, moi, je vois, en gros, ouais, plus de 5300 et quelques personnes à l'échelle nationale, bien sûr, qui sont bénévoles dans cette très grande association. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Localement, ici, sur le Cap Breton au Segor, vous êtes combien de personnes de bénévoles actives ?
Alors, on est 16 bénévoles à Cap Breton. Mm-hmm. Tous actifs et de différentes qualifications, donc on a des spécialités et le but c'est d'être polyvalent pour que quand on est déclenché, on ait toujours un équipage disponible avec les compétences qu'on peut avoir besoin.
Sûr, ouais.
Donc on est à 16 à Cap Breton.
Sauvetage en mer, voilà. Alors c'est une belle phrase, mais en quoi ça consiste ? Effectivement, il y a un système d'alerte. Tout à coup, vous recevez une alerte, un petit peu comme les pompiers, voilà. Et qu'est-ce que vous faites en fait ? La plupart du temps, d'ailleurs. Quels sont vos objectifs, vos missions, la tâche que vous avez à accomplir hein, dans ces cas-là ?
Alors l'assistance en mer, donc ça veut dire que c'est assez vaste. Mmh. Ça va du bateau, du petit plaisancier qui est sorti en mer et que son bateau tombe en panne. Mmh. Donc on dit bon, il est juste en panne, on va le remorquer. Le problème c'est qu'ici avec les côtes et comme dans beaucoup d'endroits, une simple panne en mer peut vite dégénérer. Mmh. Vous êtes en panne sur l'autoroute, vous vous mettez en sécurité derrière la glissière, vous attendez pour attendre une heure, oui. À part s'il pleut c'est pas gênant.
Voilà c'est ça. Ouais.
En mer vous êtes sur un milieu qui est tout de suite beaucoup plus dangereux et même la simple petite panne peut vite dégénérer. Mmh. Donc le but c'est d'aller sauver les personnes ou au moins les assister. Donc de les ramener en sécurité au port et d'intervenir avec les moyens adaptés pour pallier justement aux problèmes que les personnes peuvent avoir. Donc on a beaucoup d'assistance pour des pannes sur des petits bateaux, des bateaux et des gros. Le professionnel aussi, ça arrive. Et donc les marins pêcheurs essentiellement ici.
Oui.
Et après tout ce qui est sur le littoral, sur la côte, donc les baigneurs en difficulté lorsque les plages ne sont pas surveillées. Mmh. Parce que les plages sont surveillées l'été en majorité, mais le reste de l'année, il n'y a personne pour les surveiller. Mmh. Donc nous intervenons aussi, donc là en général, sur demande des sapeurs-pompiers qui n'ont pas de moyens nautiques, intervenons depuis la mer pour aller assister les personnes qui sont en difficulté.
Mmh. Et est-ce que des fois, bon, parce qu'on a un contexte ici avec le gouffre, etc., au niveau de la faune et tout, au cours de vos sorties, vous devez voir aussi des choses en mer, pas que des êtres humains, vous devez aussi assister à des fois des croisées des baleines, des dauphins, ce genre de choses aussi.
On profite aussi, l'avantage d'être en mer, c'est qu'on y est souvent et qu'on profite du spectacle des dauphins. Mmh. Et ça nous fait toujours rire parce que peu importe l'âge des gens qui sont à bord, on a tous la même réaction.
Comme des gosses,
on devient des gamins quand on voit des dauphins.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a
quand
un truc,
on rentre, on change de chemin, on fait des photos, des vidéos. Mmh. On est super content de voir des dauphins ou autre chose. Hein. Et vraiment, c'est quelque chose qui est agréable aussi quand on quand on va en mer.
Alors bien sûr, dans la partie secourisme, il y a les soins, etc. Il faut qu'on parle aussi de tout ce qui est formation, parce que c'est fondamental en fait dans tout ce que vous faites. Donc les gens qui interviennent, bien sûr, ils sont formés au premier secours, à des tas de choses que je ne connais probablement pas.
Donc enfin, quand toutes les personnes qui rentrent à la station, alors c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même intéressant que tout le monde soit secouriste. Donc on a les mêmes formations que les pompiers bénévoles. Mmh. On est tous secouristes à différents niveaux. Il y a deux niveaux en secourisme. Et ensuite, l'avantage, c'est que quand on est secouriste, au moins, on a une équipe qui est au moins complétée là-dessus. Mmh. Et après, chaque personne se forme aux spécificités dont on a besoin. On a un jet ski sur Cap Breton. Donc, il faut des gens qui soient pilotes de jet ski, qui savent récupérer une personne en jet ski aussi.
Mmh. Oui.
On a besoin de plongeurs, donc on s'appelle les plongeurs de bord, donc des gens qui vont plonger avec des bouteilles. Et des nageurs de bord, quelquefois, ce sont les mêmes qui nagent et qui plongent.
D'accord.
Et donc des gens qui vont se mettre à l'eau pour aller récupérer quelqu'un ou qui vont devoir aller à la nage jusqu'à la plage ou dans les vagues pour récupérer une personne, assister du jet ski ou de la vedette.
Oui.
Donc toutes ces compétences-là, on les forme au niveau local et on a des stages qui se passent ou à la station ou dans d'autres stations de la région pour justement acquérir les compétences et faire les stages pour valider ces diplômes.
D'accord. Et vous êtes nombreux à avoir le permis, permis bateau, que ce soit côtier ou hauturier
On a tous le permis. Les gens qui ne l'ont pas, on le passe assez rapidement parce que ça fait partie des bases, des bases à avoir. Donc les gens qui ne l'ont pas arrivent chez nous et on sait ce qu'on leur fait passer en premier.
Ouais. Notamment, je crois que pour le jet ski, il le faut, non, ce permis.
Ah oui, tous les moteurs de plus de 9 chevaux doivent avoir le permis.
Et oui, c'est vrai. Ouais.
Donc toutes les personnes qui veulent piloter un bateau, un jet, sont obligées d'avoir le permis.
Ouais, c'est qu'il y a des endroits où, bon, je crois que certains clubs de loisirs ou je sais pas quoi, des fois s'en fichent un petit peu. Il y a des endroits et des pays où c'est vraiment, je crois que n'importe qui peut en faire avec tous les risques que ça comporte.
Alors on peut louer un jet ski à partir du moment où on a un moniteur avec nous, un moniteur diplômé, il peut encadrer des gens qui n'ont pas le permis. Mais c'est dans le cadre de randonnée, encadrer, etc. C'est le seul critère.
De retour, donc, je demandais un petit peu à Patrick un petit peu les missions, certaines qu'on n'est pas forcément, hein, que vous remplissez, notamment, par exemple, bon, il y a le sauvetage, bien sûr, mais vous travaillez aussi avec l'IFREMER. Hein, vous travaillez, donc l'IFREMER, c'est la recherche scientifique, l'étude de la mer, etc. Et donc, vous travaillez aussi avec eux.
Oui, effectivement, on a une convention avec l'IFREMER, donc au niveau national. Une convention qui est déclinée ici avec l'IFREMER qui se trouve à Anglette. Donc on tourne une fois par mois, on embarque deux scientifiques de l'IFREMER qui vont faire des prélèvements d'eau. Donc on a un point précis, l'eau est prélevée à 20 mètres de profondeur et à 1 mètre de profondeur. Et du coup, ils analysent toute la salinité, turbiditude, tout ce qu'ils vont trouver dans cette eau qui leur permet de déterminer après la qualité de l'eau et de faire des recherches sur éventuellement les mammifères qu'ils pourraient retrouver, parce qu'on retrouve de l'ADN, on a appris ça il n'y a pas très longtemps.
Dans l'eau, comme ça
On retrouve de l'ADN, donc de différents poissons qui se baladent, et du coup, ça peut déterminer que tel poisson ou tel mammifère est passé dans le secteur.
Ah oui.
Et l'eau ici est prélevée dans le lac d'Ossegor, même juste après. Donc là, c'est la service de la Max qui s'en occupe.
Oui.
Et donc, dans le même cadre de recherche sur la qualité des eaux.
D'accord. Ah ouais, alors ça doit être une sacrée soupe, l'ADN tout mélangé, il doit avoir plein d'espèces et tout. Ça doit leur donner du boulot, là, en reconnaissance au ADN, je pense.
Ah, je pense qu'après, ils ont du travail derrière.
Ah ouais. Oui, vous faites aussi, on parlait des manifestations, on parlait aussi des fêtes de la mer. Donc là, on peut vous retrouver aussi chaque année.
Ouais, donc c'est la principale occasion où on nous retrouve et on peut surtout monter sur nos bateaux. Donc le bateau de Cap-Breton, mais aussi les bateaux de nos collègues de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, qui viennent participer aux fêtes de la mer à Cap-Breton. Donc les gens voient un petit peu les bateaux, ils peuvent monter à bord pour une sortie. Et ça attire vraiment beaucoup de monde. Et c'est l'occasion de réunir aussi les gens autour du port de Cap-Breton. Et ça attire beaucoup de monde, c'est une grosse journée.
Ouais.
Et tous les gens sont heureux de pouvoir monter à bord, discuter avec nous. Et nous aussi, ça fait du bien de voir un petit peu les gens que d'habitude on croise sur le quai.
Et oui. Ça, vous êtes les hommes en orange, j'ai vu les photos. Hein.
C'est ça.
On parle des hommes en jaune sur l'autoroute, vous êtes les hommes en orange.
Parce que l'orange est une couleur qui se voit mieux en mer, parce qu'il n'y a pas d'orange en mer en fin de compte.
Oui, c'est sûr.
C'est la couleur qui ressort le mieux.
Ouais. Et vous faites aussi de la formation et des rappels de sécurité aux plaisanciers, etc. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils partent un petit peu, ils ont leur permis, ils ne sont pas forcément super au point sur toute la sécurité et tout. Et donc, vous faites des démos et tout.
Voilà, donc une fois par an à peu près, on a une association du port de Cap-Breton, une association plaisancier, on leur fait ce qu'on appelle une journée de sécurité en collaboration avec les affaires maritimes de Bayonne. On leur rappelle les règles de base, on leur rappelle évidemment les moyens qu'ils ont pour nous contacter, comment le faire, et on explique aussi un petit peu tout ce qui est moyens de sécurité qui est obligatoire à bord, donc l'utilisation des radeaux de survie, l'utilisation des gilets, etc., tout le matériel qu'ils ont quelquefois dans un petit coin. On sait qu'il est là, mais on ne sait pas comment, on ne se rappelle plus comment ça sert.
Oui,
donc là, on leur montre un petit peu, on sort tout et on leur explique comment l'utiliser en sécurité pour leur bien.
Alors, le sauvetage, les nageurs sauveteurs, on précisait que les gens qu'on voit, les MNS sur la plage et tout, c'est pas vous, ça, c'est des gens qui sont employés par les municipalités, ça.
Alors, ici, sur les Landes et le Pays Basque, non. La SNSM n'est pas présente. C'est les deux régions, les deux départements, on n'est pas présents.
Ouais.
Mais sur tous les littorales du reste de France, on est présents partout sur les plages.
Ouais.
On assure la surveillance, comme le font ici les nageurs sauveteurs des différentes communes employées.
Alors,
d'où
vient cette spécificité? Pourquoi c'est différent ici?
Je pense que c'est historique. Je ne connais pas l'historique sauvetage côtier ici, mais c'est historique. Et le fait d'avoir des vagues, je pense que ici, avec les côtes qu'on a, le sauvetage s'est implanté comme ça pour aller sauver les gens sur le littoral. Et après, le sauvetage qui est pratiqué ici, sauvetage côtier, c'est sauvetage sportif. Donc, c'est la partie essentiellement sportive, performance du sauvetage. Nous, on utilise plus la partie sécurité du sauvetage. On a une formation de base, hein, les techniques sont les mêmes. Mais eux le font dans pour la partie sportive. Donc, chronométrer avec des techniques et un peu spécifiques.
Oui, encore une fois, là, il y a de la formation aussi pour pouvoir prétendre faire ce genre de choses. Il faut avoir une formation qui est assez lourde. Je crois que c'est quelque chose de comme 300 heures de formation.
Donc, il faut déjà être aquatique, donc ne pas avoir peur de l'eau, être à l'aise dans l'eau. Et après, on a des formations qui permettent aux gens justement de travailler leur technique et d'être au point et de pouvoir intervenir dans toutes les conditions en sécurité. Parce que le but là, c'est plus d'aller à l'eau, c'est de ramener quelqu'un, quoi.
Ça c'est plus difficile là. C'est vrai qu'on connaît, enfin des fois les je sais pas si ça se fait encore au collège quand on va à la piscine, hein, il y a des petits stages, on prenait le petit mannequin là.
Voilà, c'est ça, le mannequin existe toujours.
Et c'est là qu'on se rend compte, mais c'est infernal. Parce que c'est un poids mort dans l'eau, c'est compliqué quand même.
Vous imaginez, vous le mettez le même mannequin dans les vagues.
Non, j'imagine
c'est
pas.
C'est encore plus sympa.
C'est vrai que là, il faut vraiment être, comme vous disiez, aquatique, avoir vraiment être à l'aise dans cet élément qui n'est pas un élément naturel pour nous à la base.
Surtout avoir les bonnes techniques, parce que c'est une question de technique. On n'a pas besoin d'être beau bodybuilder pour faire ça. Mais voilà, il faut une bonne condition physique quand même et une bonne technique.
Alors, il n'y a pas très longtemps, vous avez été mis un peu à l'honneur parce qu'il y a eu une histoire avec le sauvetage d'un kitesurfer, je crois.
Oui, on a fait une assistance pour un kitesurfer la semaine dernière. Quelqu'un qui est un pratiquant régulier. Les conditions de mer étaient assez fortes. Et le vent est tombé, donc le principe du kite, c'est de se faire tracter avec le vent. Donc quand on n'a plus de vent, c'est compliqué. Et comme il avait un foil, le foil, c'est les ailes qui permettent à la planche de décoller.
De voler au-dessus de l'eau.
Et le problème, c'est qu'il n'a plus de moyens pour regagner la plage, parce qu'avec la planche, on ne peut pas partir à la rame comme on surfe. Et donc un collègue à lui, il nous a appelé pour venir l'assister, venir le récupérer. Donc il n'est pas resté longtemps dans l'eau, donc il n'était pas en hypothermie, il était très bien, mais il fallait quand même le ramener en sécurité. Et comme la houle était vraiment grosse, il n'a pas pu rentrer par ses propres moyens.
Alors vous parliez d'un collègue justement, alors on en parlait hors antenne, mais c'est un petit peu comme la montagne. C'est bien de ne pas être tout seul en fait quand on fait une activité comme ça, parce qu'en cas de problème, si personne ne vous signale au secours, c'est fini.
Voilà, donc la règle de base quand on part en mer, c'est de prévenir quelqu'un de sa famille ou un entourage, pour qu'on puisse, que quelqu'un sache où on va à peu près et à quelle rencontre entrer, pour que les secours puissent être déclenchés si on n'a pas de moyens de communication et qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne reste pas en mer seul sans que personne ne soit au courant.
Alors, est-ce qu'il existe des systèmes un petit peu, comme on avait mis au point à un moment donné pour le ski, hein, des balises, quand il nous arrive quelque chose, une sorte de baleine lumineuse ou radio ou sonore, ça existe ce genre d'équipement de sécurité?
Alors, on a des radios VHF marine, donc des radios que tout le public peut s'acheter quand on fait un bateau, ça coûte une centaine d'euros, c'est pas très cher. Et parce que le portable peut marcher aussi, mais dans des zones vraiment restreintes. Et c'est pas un moyen très fiable. Au-delà des quelques distances de la côte, on n'est pas toujours couvert avec un téléphone portable. Donc la radio, c'est le meilleur moyen. Après, on a des feux de détresse, on a plein de choses sur un bateau qu'on peut utiliser, qui sont obligatoires, qu'on peut utiliser pour se signaler.
Mais un kitesurfer, lui, il n'a pas grand-chose comme élément de sécurité.
Kitesurfer, non, il n'y a pas grand-chose. En effet, il n'y a pas beaucoup de moyens d'emporter quoi que ce soit.
Peut-être qu'il n'existe pas une ceinture avec un petit pistolet. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas le saison.
Non, alors maintenant, les kitesurfers ont souvent des petits... ils ont des housses étanches où ils mettent leur portable.
D'accord.
Et donc, ou des petites radios, une petite radio qu'on peut utiliser, radio marine, qu'on peut mettre dans une petite poche. On a toujours une petite poche, on peut mettre une radio pour contacter les secours.
D'accord.
Et donc, ils pourront nous déclencher après pour venir les assister.
Et donc, alors, on a bien compris, ça fait quand même une logistique vachement importante. Vous remplissez une mission de service public qui est importante aussi, vous avez plein de bateaux. Et vous avez donc besoin de trouver des fonds. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut vous aider?
Alors, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous faire des dons. Donc, c'est important. Vos dons servent au remplacement du matériel, à entretenir le matériel, parce qu'on a un bateau, on a un jet ski, on a beaucoup de matériel. Ça coûte très cher à entretenir. Et ça, c'est la station qui s'en occupe. Donc, tous les dons sont les bienvenus, entreprises comme particuliers. Vous bénéficiez de réductions fiscales.
Donc 60%.
60%, comme pour toutes les associations.
L'avantage,
c'est que vous faites un don de 100 euros, vous... Ça fait une bonne réduction dessus.
Et on sait où ça va en plus.
On sait où ça va et on peut même vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec vos dons. On a eu des dons de clubs de sport qui nous prêtaient du matériel aussi, qui nous donnaient du matériel. des entreprises qui disent voilà, moi je veux bien vous donner 500 euros, par contre dites-moi à quoi ça sert.
Oui.
Donc
oui,
on a acheté
oui,
des combinaisons, donc voilà, on leur a montré voilà, les combinaisons qu'on a achetées avec votre don. Tout est tracé et on peut vous justifier le moindre argent qui sera donné à la station. Et ce que vous donnez à Cap-Breton reste à Cap-Breton.
Très bien. Bon, c'est bon à savoir. Hein.
Voilà.
C'est bon à savoir. Alors, est-ce que vous avez eu des fois justement des histoires avec des gens, que ce soit des privés, des particuliers ou des entreprises que vous avez aidés, sauvés, qui vous ont, du coup, qui vous ont aidés, qui vous ont remercié de manière aussi autre que une main serrée et un sourire?
Ouais, on a des gens qui, on a déjà un de nos patrons suppléants, donc un de nos responsables d'opération, qui était plaisancier et qu'on a été récupéré sur son bateau il y a quelques années.
Oui.
Et son engagement maintenant, ben voilà, il est entré à la SNSM, il a monté toutes les qualifications et
d'accord,
il est devenu patron suppléant.
Ah ouais, c'est marrant, ouais, c'est une belle histoire. Ben,
ouais, voilà. Donc il a donné du temps pour le temps qu'on lui a accordé. Maintenant, il fait partie des piliers de la station.
Ah bah très bien. Ouais, parce que vous disiez qu'il y avait pas mal de raisons en fait de sortir. C'est souvent des pannes en fait, des pannes de...
Ouais, la majorité des accidents commencent avec une panne.
Ouais, voilà. Et oui, après, suivant la vitesse d'intervention, ça finit plus ou moins bien.
Voilà. Ou le manque d'intervention si on n'a pas été contacté.
Ouais, voilà. Ça c'est cela. Et ça vous y pouvez pas grand chose. On va faire des petits rappels. Hein. Donc vous avez besoin de dons, hein. Ça c'est le nerf de la guerre. Et puis voilà, on en parlait aux antennes. Et non, vous n'êtes pas salarié, vous êtes bénévole.
Oui, actuellement, on est tous bénévoles. Mmh. Tous les bénévoles de la SNSM le sont. Tous les bénévoles sont bénévoles. Il n'y a qu'au siège à Paris où il y a toute la partie administrative et réglementaire. Là, on a quelques salariés. Mais on est 5000 et quelques et toutes les personnes sont bénévoles à 99,9%.
Oui, ça c'est remarquable. Et alors, est-ce qu'il y a une actualité, quelque chose qui vient, des participations à des événements, quelque chose de particulier et des projets aussi?
Alors le gros projet qu'on a actuellement, c'est la refonte de la vedette. Notre bateau qui a 13 ans maintenant va partir pour 3 mois à La Rochelle, dans un chantier naval, pour le mettre à jour au niveau électronique et navigation. Tout notre matériel commence un petit peu à être fatigué. Les normes évoluent, donc on aura des moyens plus performants. On va refaire aussi une petite toilette générale du bateau, entretien mécanique. Donc le bateau sera absent de Cap-Breton pendant 3 mois, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un bateau de relève qui sera là.
Et oui, parce que oui.
Sinon, et les anciens se rappelleront que le bateau qu'on va avoir ressemblait au bateau qu'on avait avant qu'on ait la vedette Saint-Nicolas II.
D'accord.
C'est l'ancien modèle qu'on récupère, remis à neuf.
D'accord.
Un des anciens modèles qu'on récupère. Donc la surveillance sera toujours assurée et le sauvetage sera toujours assuré à Cap-Breton.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une actualité aussi on peut vous retrouver où est-ce que, parce qu'on a parlé des fêtes de la mer, est-ce qu'il y a une actualité dans laquelle on pourra vous retrouver ou il faudra attendre l'an prochain?
Alors là, actuellement, on n'a pas beaucoup d'actualité. Comme on n'a plus beaucoup de moyens nautiques, on n'aura pas le même moyen nautique, donc on n'a pas d'actualité actuelle. On va profiter de l'hiver un petit peu pour nous former, pour retravailler un petit peu toutes les techniques, retravailler entre nous. Et on est toujours disponible pour accueillir les gens s'ils le souhaitent qui viennent venir voir la station et ce sera toujours avec grand plaisir.
Très bien, bah alors sur le podcast je mettrai bien sûr en lien votre Facebook et tout ça, puis le rappel de ce besoin de dons puisque vous pouvez demander des dons puisque vous faites don de votre existence et de vos heures pour sauver les autres, donc ça mérite bien quand même une reconnaissance, je crois.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter la SNSM. On sait un petit peu mieux qui vous êtes maintenant.
Merci, et puis n'hésitez pas à venir nous voir à Cap-Breton.
Tout à fait, merci, au revoir.
Au revoir.